Débat et controverse sur BFM Business. Les experts avec Laure Clausier.
On est en direct sur BFM Business jusqu'à 10h pour les experts avec ce matin Anne-Charlotte Fredenucci, la présidente d'Ametra, avec Dorothée Rouzet, chef économiste de la Direction Générale du Trésor, et Roland Gillet, professeur d'économie en France et en Belgique. On était sur nos questions américaines et sur la question du budget avec Donald Trump qui a besoin d'argent, avec un budget dont on sait déjà, Dorothée Rouzet, qu'il va creuser les déficits, qu'il va y avoir des émissions de dettes de plus en plus importantes. On a eu ces derniers temps des petites alertes quand même sur le marché obligataire américain, avec ce sentiment qu'il y a trop de dettes aujourd'hui sur le marché. Est-ce qu'il peut y avoir est-ce que vous voyez les taux obligataires monter à 10 ans dans ces prochains mois?
Je vais pas faire de prédiction sur les taux, mais c'est vrai qu'on a eu ces derniers temps plusieurs alertes, alors qui étaient d'abord des alertes des marchés en réaction aux droits de douane et aux perspectives de très fort affaiblissement de la croissance aux États-Unis. Ensuite, il y a eu la dégradation des États-Unis par Moody's, donc ils ont perdu leur dernier triple A. Et là, je dirais, il y a beaucoup d'attention, évidemment, sur le budget qui est en discussion, qui est un budget qui creuse fortement les déficits, avec des baisses d'impôts assez massives, des coupes dans les dépenses qui, en plus, sont assez récessives, hein, parce que concrètement, on coupe dans les dépenses d'aide sociale, d'aide médicale, enfin, et des perspectives de creusement de déficits, alors qu'ils sont déjà à 6-7% de déficit pour une économie qui allait bien, qui est au plein emploi, avant l'épisode de droit de douane. Donc il y a pas mal d'attention. Aujourd'hui, les États-Unis sont de loin le premier émetteur parmi les pays occidentaux, donc ils sont déjà les plus gros émetteurs sur les marchés obligataires. Avec ce budget-là, ça ne peut que s'accentuer. Au moment où, par ailleurs, on va demander au marché d'absorber sans doute plus de dettes européennes, notamment allemandes. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu cette question de... On va tester la capacité d'absorption des marchés. Les banques centrales continuent doucement le quantitative tightening, c'est-à-dire de ne pas réinvestir dans les actifs qui arrivent à échéance. Donc, voilà, il y a cette question et il y a beaucoup d'attention des marchés obligataires au sujet américain aujourd'hui. C'est vraiment le principal point d'attention, ce qui veut dire que la direction des taux américains, elle est probablement plus à la hausse qu'à la baisse. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour les marchés européens? C'est un peu moins clair que ça ne l'aurait été il y a quelques temps, parce que jusqu'à il y a quelques mois, tout le monde, je dirais tous les taux, augmentaient et baissaient globalement de concert. On a quand même un peu plus de découplage ces derniers mois entre les taux américains et les taux européens. Donc l'histoire américaine peut affecter les taux américains et continuer à créer un peu plus de repli vers les marchés européens comme ce qu'on a observé. Mais bon, globalement, un appel massif au marché des États-Unis qui fait quand même concurrence à notre dette, c'est pas une bonne nouvelle.
Mais est-ce que vous avez peur, par exemple, pour le marché français, pour notre OAT à nous, quand les Allemands vont se mettre à émettre beaucoup de dettes sur les marchés, qu'on ait un aspect concurrentiel qu'on n'a pas vraiment aujourd'hui avec des investisseurs qui parfois achètent de la dette française parce qu'il n'y a pas assez de dette allemande sur le marché? Est-ce qu'ils pourraient là plutôt choisir cette nouvelle dette allemande que nous?
Aujourd'hui, on n'a pas de raison d'alerte. Quand on voit les adjudications se passent très bien, la demande pour les titres français, elle est là, pas juste parce qu'il n'y a pas assez de titres allemands, mais parce que la dette française, elle est perçue comme étant de bonne qualité, très liquide, avec un profil en termes de maturité, de diversité d'instruments, indexé sur l'inflation, pas indexé sur l'inflation, à différentes maturités, qui répond aux besoins des investisseurs, et l'Agence France Trésor gère ça bien. Et on voit une demande qui est toujours très, très présente pour notre dette. Ensuite, quand il y a beaucoup, beaucoup plus d'appels au marché, si c'est ce que les États-Unis vont faire. À la fin, c'est plus une question de taux. C'est-à-dire que si tout le monde essaye de placer de la dette en même temps, ça devient un peu plus cher pour tout le monde. C'est plus ça le risque qu'un détournement de la dette française. Honnêtement, on n'a aucun signal dans ce sens-là.
Roland Gillet, sur les marchés obligataires, vous craignez pas qu'à un moment donné, il y ait trop de dettes?
Mais il y a sans doute quelque chose qui, moi, me gêne beaucoup plus. C'est le fait que, pour le moment, malgré tous les événements qui se sont passés, le fait que les banquiers centraux ont été beaucoup présents, on a eu l'impression qu'il y avait toujours un sauveur de dernier sort, et donc les primes de risque sont relativement faibles d'un pays à l'autre, notamment en Europe, et même aux États-Unis. Si on regarde l'incertitude Trump, on ne peut pas dire pour le moment que les rentiers, entre guillemets, ceux qui ont de la dette, quand on enlève l'inflation, soient nécessairement très bien rémunérés. Et donc, on a vu avec le coup là, des tarifs et du Liberation Day, qu'il suffit que ça bouge un petit peu à la marche, puisque c'est jamais que sur un jour, les échanges d'un jour qui peut faire bouger très fort les taux d'intérêt, pour que tout le monde se réveille. Et donc, On pourrait avoir à un moment donné même des taux en Europe qui continuent à baisser sur les émetteurs les meilleurs, et la prime de risque augmentée de l'autre côté, qui compenserait largement cette baisse de taux directeur de la Banque centrale, si vous voulez, ou du taux de l'Allemagne, parce que la prime de risque augmente. Et ça peut même être régional. Vous avez dans certaines zones, en Espagne, en Italie, en Belgique d'ailleurs, des dettes régionales qui sont assimilées parfois, parce qu'il y a une garantie plus ou moins d'État, mais qui sont, elles aussi, parfois, tout juste limite soutenable. Moi, je suis même très embarrassé de parler de soutenabilité, parce que pour moi, on parle de solvabilité, normalement, pour quelqu'un qui émet de la dette. Mais ici, on est tellement arrivé à des situations graves qu'on ne compte plus que sur la soutenabilité, qui est basée essentiellement sur les cons, et parfois vous mettez tribuables derrière, qui vont un jour devoir la rembourser. Et je pèse mes mots, parce qu'à un moment donné, on en imprime tellement qu'on pense toujours qu'il n'y aura jamais de problème, même quand on a des problèmes qui se multiplient, et je m'explique, depuis la région, il y a parfois même des dettes provinciales, enfin les dettes, en tous les cas, de tout ce qui est public, commencent à être très prégnantes partout, et il y a eu un acteur qui a empêché que cette dette aille, pendant le Covid, et tant mieux d'ailleurs, à certains moments sur les marchés, puisque la Banque Centrale Européenne a acheté tout ce qui a été émis de tous les pays, à pratiquement 10 euros près, au fur et à mesure qu'elle était émise, elle était prise sur le bilan de la Banque Centrale. Et comme vous le rappelez, maintenant, ils sont en train d'essayer de faire le détricotage dans l'autre sens. Mais je pense que tout ce qui arrive maintenant rend leur action encore de plus en plus difficile, justement pour éviter d'avoir une remontée des taux d'intérêt qui touche à ce moment-là la soutenabilité déjà toute juste, dans période de taux très bas, sans rémunération souvent même pour ceux qui la détiennent, puisque l'inflation mange une partie, voire la totalité de leur rendement, et c'est ce qui a permis que cette dette soit soutenable. Donc il ne faudrait pas grand-chose si on a un accident quelque part.
Oui, mais la Banque Centrale Européenne referait la même chose.
Oui, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, toute chose n'est pas égale par ailleurs. Avant, vous aviez des ratios dette-PIB qui étaient, je vais dire, plus raisonnables qu'on est aujourd'hui, et aujourd'hui, on voit quand même où les enjeux se trouvent, et donc il faut être prudent, parce que je trouve que pour le moment, cette partie-là est encore très faiblement rémunérée. Et je ne parle pas de la France en particulier, je parle de différents pays en Europe qui sont encore avec des trajectoires qui sont quand même déviantes, et on voit d'ailleurs à quel point on va encore en remettre une couche, puisque pour ces pays-là, au lieu de leur dire qu'ils doivent rentrer dans l'ordre, ils ont le droit, pour la partie des 650 milliards, de déroger, parce qu'on en a besoin pour la défense. Donc, il faut être prudent.
Bon, tout ça nous dit qu'on ne va pas avoir des rentrées fiscales grâce à la croissance économique très forte dans les prochains mois. Il va falloir trouver de l'argent. On cherche en France 40 milliards d'euros pour réussir à avoir un déficit, ne serait-ce qu'autour des 5%. On en est là. Donc, du coup, on pense à remettre en place l'ISF. Le gouvernement planche sur une taxe sur les patrimoines de plus de 2 millions d'euros. Hier, c'était la taxe Zucman qui était discutée au Sénat. Elle avait été votée à l'Assemblée nationale, a été retoqué au Sénat. Dorothée, est-ce que c'est une nécessité pour les finances françaises? Est-ce que c'est un sujet de symbole, cette question d'ISF? Quel est votre point de vue?
Je pense, c'est une question déjà à manier avec pas mal de précautions. Aujourd'hui, dans le budget 2025, donc pour 2025, il y avait pour un an ce qu'on appelle la contribution différentielle sur les hauts revenus, dont le but était de s'assurer que les très hauts revenus payent au moins 20% d'impôt sur le revenu. Bon, ce qui touche assez peu de gens, qui devait rapporter 2 milliards cette année, avec dans l'idée que ce serait remplacé ensuite par quelque chose qui ciblerait plus spécifiquement les pratiques d'optimisation fiscale qui souvent passent par des holdings, qui font que certains contribuables, tout en haut de l'échelle des revenus, sont très peu taxés. Est-ce que c'est un outil de rendement? Pas forcément, parce que si vous voulez en faire la version Zucman, c'est-à-dire avec une taxation à 2% sur le patrimoine en disant que ça va rapporter beaucoup d'argent, vous y arriverez peut-être la première année, mais la deuxième année, il n'y aura plus personne. Donc, enfin, je veux dire, ce genre d'instrument, on sait qu'on parle de gens qui sont très mobiles. Si vous mettez des taux élevés pour faire du rendement, la taxe disparaît d'elle-même.
Ça marche une fois, quoi.
Oui, ça marche une fois et on a pas mal perdu en termes d'attractivité au passage. Donc, il faut faire attention. Donc, si on va vers ce genre d'outils, il faut le faire assez finement avec des taux qui sont pas trop élevés, qui ciblent vraiment là où il y a un sujet en fait de régressivité tout au haut de la distribution, mais tout en sachant qu'on est sur des gens sur des gens mobiles. Donc, je dirais. À manier avec précaution. Quelle sera la décision finale, j'en sais rien, mais je dirais c'est pas vraiment un outil, on fera pas les 40 milliards avec ça. C'est sans doute plus une question, alors je sais pas s'il faut dire de symbole, mais à partir du moment où on va demander des efforts à tous les Français, de s'assurer que le sentiment est bien là, que l'effort est partagé de manière vaste, et y compris tout en haut de l'échelle des revenus.
Anne-Charlotte Fredenucci, faire revenir l'ISF, pour vous, question de symbole, utile, pas utile?
Alors, moi, je m'exprimerai d'abord en tant que chef d'entreprise. Tous les ans, Ametra ne distribue pas de quoi payer 2% de la valeur d'Ametra. Donc, attention à ces outils qui sont potentiellement mortifères pour les entreprises et les ETI françaises. Il faut être vigilant sur, au minimum, l'exclusion de l'outil de travail. Attention à taxer
les
entreprises.
Parce que la taxe Zucman prévoit, elle, de mettre l'outil professionnel dans le patrimoine des dirigeants et de calculer là-dessus.
C'est ce qui serait dramatique, parce que typiquement, Ametra, tous les ans, réinvestit. Moi, mon père était auvergnat, hein, donc un chou est un chou. On laisse l'argent dans l'entreprise pour que l'entreprise se développe, pour qu'elle puisse continuer à croître, à créer de l'emploi. Si demain, je dois distribuer suffisamment pour payer l'impôt sur le revenu et ensuite, à la fin, payer 2% de la valeur de mon entreprise, c'est la fin de mon modèle économique, clairement.
Alors, la taxe Zucman, il y a pensé, Gabriel Zucman, et lui, il dit, c'est pas compliqué, vous donnez des actions à l'État. Comme ça, au moins, vous payez en actions, en fait.
L'État ne va pas devenir actionnaire de toutes les entreprises françaises.
À ce moment-là, c'est l'URSS. Enfin, je ne sais pas, mais...
Il les vendra, ça sera possible. Si vous avez un problème de liquidité, on a la solution. Non, mais vous dites, à un moment donné, c'est mortifère. C'est ça que vous...
C'est mortifère. L'entrepreneuriat est quand même une aventure dans laquelle on prend des risques. Moi, je me souviens, quand j'ai repris le groupe familial, on a dû faire plan social, procédure de sauvegarde. L'appartement de mes parents était potentiellement saisi par la banque. Enfin, il y avait un risque de saisie si nous n'arrivions pas à redresser l'entreprise et à rembourser. Donc, il ne faut pas oublier que le chef d'entreprise prend des risques sur l'argent qu'il a réussi à mettre de côté au fur et à mesure qu'il a réussi à développer son entreprise et à sortir de l'argent. Donc, attention quand même à ces risques qui sont très, très importants sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire le départ de ces populations qui sont très mobiles. Moi, je suis française, engagée pour la France. Je souhaite continuer à payer mes impôts en France, mais dans la mesure où mon entreprise survit. Si rester en France tue mon entreprise, là, je n'aurai pas le choix. Je serai obligée de déménager.
Roland, à chaque fois, ça me terrifie d'entendre des trucs pareils. C'est-à-dire qu'on peut se dire à un moment donné que l'impôt peut tuer les boîtes, tout simplement.
Tout à fait. Et peut décourager aussi, parce que effectivement, le message qu'on voudrait quand même donner aujourd'hui, moi, ça me semble tout à fait normal de dire ce que vous avez dit d'abord, et puis deux, il y a plus d'incertitudes, on vient de le dire, c'est dû à personne. En France, en particulier pour le moment, en dehors des problèmes franco-français, il y a le contexte international. Avoir des gens qui sont d'accord sur fonds propres, d'aller mettre de l'argent dans leur entreprise, dans l'outil productif, même acheter des actions quand on est tout petit, qu'on a son épargne et qu'on veut les mettre en actions plutôt que les mettre en obligations. C'est-à-dire vraiment dans du capital à risque où on n'est pas sûr de récupérer la totalité. Dans un univers où c'est déjà plus incertain, on a tendance à demander une prime de risque. Mais il faut du courage pour ça, c'est des audacieux, c'est des gens qui n'ont pas peur de ne pas être garantis si ça tourne mal. Toucher ces gens-là maintenant, au moment justement on a besoin d'eux, sachant qu'on est déjà les champions de l'endettement plutôt que les champions du capital à risque, pour les prises de risque, c'est vraiment un signal à l'envers. Aujourd'hui, on devrait plutôt encourager ces gens-là, même des jeunes qui créent leur start-up dans différents pays, mais dans le mien également. Souvent, je disais, quelqu'un qui crée son entreprise, il a peu de fonds propres au début, donc pour le protéger, il faut essayer qu'il les laisse dans l'entreprise, comme vous le disiez. Et moi, j'avais dit à un moment donné, pendant 5 ans, il ne payera pas d'impôt des sociétés, pour autant qu'il ne se paie pas de dividendes et qu'il se paie un salaire jusqu'à un certain niveau, dans le but justement, comme on sait que c'est dans les 5 premières années que souvent une entreprise disparaît pour des raisons conjoncturelles qui ne sont pas toujours dues à l'entrepreneur, d'avoir suffisamment de fonds propres qui le protègent si un jour il y a un événement qui se passe. Donc ici, aller mettre des éléments qui poussent des gens audacieux qui mettent à disposition de l'économie française dans leur entreprise des moyens productifs et qui les développent justement ne se rétribuant pas et en faisant grossir leur patrimoine, ce qui permet d'assurer une meilleure pérennité de l'entreprise, je trouve que c'est un message à l'envers dans le contexte actuel.
Peut-être quand même, Dorothée, pour pas trop inquiéter, hein, la version à 2% avec les biens professionnels, vos parts dans vos entreprises, c'est la version Zucman qui a été retoquée au Sénat et qui n'a aucune chance de passer, hein, parce que pour toutes les raisons qu'on a dit, heureusement. Donc,
mais même sur le cas, je suis d'accord avec vous, mais ça c'est sur l'outil productif. Mais
pour l'instant, nous dit Zucman, hein,
mais
5 ans, ça passera.
Mais si vous y allez aussi sur le patrimoine, il faut pas oublier non plus pour le moment, et notamment, je l'ai dit tout à l'heure pour les dettes, notamment les gens qui détiennent des obligations, quand vous avez, par exemple, j'invente sur 3%, 1% qui vous reste quand on a déduit l'inflation. Si on prend bon an, mal an chaque année sur ce patrimoine-là, qui n'est pourtant pas du capital à risque, j'en sais rien, 2%, vous vous appauvrissez chaque année. Donc, on vous prélève un impôt sur quelque chose que vous n'avez pas gagné, puisqu'on le prend sur le capital indépendamment de ce que ça rapporte. C'est un peu ce que vous disiez.
Même l'ISF n'était pas à 2%, je pense que personne ne pense sérieusement à le rétablir à 2%.
Non, mais
encore une fois, c'est la version Zucman.
Mais c'est parce que vous me demandiez...
La version Bayrou est beaucoup plus soft. Elle n'est pas sur la même assiette, elle n'est pas sur les patrimoines professionnels.
Et d'ailleurs, au niveau de l'ISF en France, vous avez quand même vu que Emmanuel Macron, quand il est arrivé, il a mis l'impôt sur la fortune sur le seul qui n'est pas mobile. De patrimoine, c'est-à-dire l'immobilier. Mais le reste, on sait aujourd'hui en plus que les gens intelligents et les gens qui veulent survivre, vous l'avez très bien dit, vous avez toute envie de continuer à être français, c'est à développer vos projets en France, mais vous n'avez pas envie, à un moment donné, que votre entreprise que vous avez constituée avec le temps et même votre famille soit mise à mal alors que vous voulez justement la développer et créer des emplois supplémentaires.
Ma priorité, c'est la pérennité des emplois d'Ametra. On est d'accord.
Donc je trouve que le message ici va à l'envers.
Dans un contexte international compliqué, on le disait, Israël a frappé l'Iran cette nuit sur des dizaines de cibles militaires et nucléaires. On a là des titres des compagnies aériennes qui chutent. On est à plus de 5% pour Air France KLM, pour EasyJet, notamment pour Lufthansa, puisqu'évidemment, il y a des zones qui sont totalement fermées à la circulation. Un contexte dans lequel, en dehors même de cette situation spécifique sur l'Iran, sur les marchés financiers, Dorothée Rosé, on achète de l'or. C'est la valeur refuge par excellence. Avant, on disait ça ne rapporte rien. On est ce matin à 3 400 $ l'once. Il est en hausse. Et en plus, dans les réserves des banques centrales, il est de plus en plus prégnant. Aujourd'hui, 20% des réserves des banques centrales, c'est de l'or. Il y a moins de dollars, mais il n'y a pas plus d'euros, il y a plus d'or. C'est ça qu'achètent les banques centrales.
Oui, c'est vrai. Alors, les réserves d'or des banques centrales, ce niveau de 20%, ça fait des décennies qu'on n'avait pas vu ça, effectivement. Après, il y a deux facteurs. L'un, c'est le facteur dont on parle depuis le début, c'est l'incertitude. L'or, c'est un peu la valeur refuge par excellence. Donc, on se tourne vers l'or dans des périodes de forte incertitude, encore plus avec des turbulences potentielles sur le dollar. Plus on a d'aversion au risque, en général, plus les gens se tournent vers l'or et donc le cours de l'or augmente effectivement depuis un certain temps. L'autre facteur qu'on voit, c'est oui, le dollar baisse dans les réserves de change des banques centrales aussi parce que au fond, ça date pas de Trump, le fait que un certain nombre de pays, au premier rang la Chine, mais aussi d'autres pays émergents, veulent rééquilibrer un peu leur... je ne vais pas dire dépendance aux États-Unis, mais un peu. C'est-à-dire au moins le poids des États-Unis dans leurs réserves de change.
40% du dollar, mais ça baisse.
Voilà, la Chine, ça fait longtemps que le poids du dollar dans les réserves de change de la Chine baisse. Alors, baisse doucement, mais il baisse. Et donc, il y a un petit peu aussi de rééquilibrage qui est à l'œuvre depuis un certain temps, alors qu'il changerait au fait que le dollar reste de loin la monnaie dominante, mais avec un petit peu de rééquilibrage, un petit peu de diversification qui se voit et qui va en partie vers l'or et en partie vers d'autres devises.
La Chine qui se dit peut-être que le moment où elle sera sous sanction, ça sera plus utile d'avoir de l'or que d'avoir du dollar si ça arrive à un moment avec Taïwan.
Oui, alors après, c'est une c'est un peu un équilibre de la terreur. C'est-à-dire que si la Chine décidait de vendre ses réserves en dollars, ça serait aussi assez douloureux pour les États-Unis, mais ça serait une perte en capital pour la Chine. Donc, la dépendance est croisée et je pense que les deux essayent de la réduire
Roland,
en partie.
Oui, il y a juste une chose qu'il faut faire attention sur l'or, c'est qu'on sait quand même une chose quand on le regarde dans le temps, c'est un outil aussi de spéculation et plus qu'un outil de rendement. L'or ne distribue rien. Il est juste sur un objet de rareté relative. Et à un moment donné, vous l'avez vu, notamment après différentes crises, c'est pour ça qu'il faut faire quand même très attention et peut-être le dire aussi, c'est que les gens qui, au moment où la crise a été au plus fort, qui ont acheté l'or dans des périodes passées à ce moment-là, notamment quand il y a eu des crashs boursiers et ainsi de suite, ils ont vendu leur patrimoine qu'ils avaient, ils ont acheté de l'or parce qu'ils n'en pouvaient plus tellement ils étaient mal dans leur peau, et ils l'ont acheté au prix le plus élevé. Et derrière, on sait quand le beau temps revient en espérant qu'il va revenir quand même, à ce moment-là, la correction de l'or peut être très grande. Et n'oublions pas quand même que de le stocker est coûteux, de l'acheter, les coûts de transaction sont élevés, et par-dessus du marché, c'est ce que je dis, en dehors de l'appréciation relative sur sa rareté relative et son importance, sauf quand il est utilisé pour faire des bijoux ou autres, il n'a pas, je vais dire, une raison de rémunérer. Donc c'est une œuvre d'art, mais en grand nombre, qu'on a souvent stocké au début, parce que au départ les monnaies étaient en or, et puis après on sait comment c'était avec Bretton Woods et ainsi de suite. Mais donc il faut faire attention quand même à dire, moi je le verrais plus, et je l'ai souvent dit à mes étudiants, vous vous dites vraiment ça va mal tourner, il va y avoir la guerre, vous avez un stock d'or réduit et plutôt, je vais dire, puisque l'unité pour l'or, c'est l'once d'or, vous avez quelques cougarans chez vous et vous dites, si un jour ça ne va plus, je pourrais acheter un poulet bon an mal an si c'était la guerre. Donc bien avoir sûr. Ça de côté, oui, maintenant gonfler son stock d'or au-delà du raisonnable, c'est-à-dire de 2 à 3%, ça devient de la spéculation plus qu'autre chose. D'ailleurs, on voit d'ailleurs que la volatilité de l'or, du prix de l'or, j'entends, l'or n'a pas de valeur, il a un prix. Je ne sais pas l'actualiser ses revenus, il n'y en a pas. Donc ici, il faut faire attention.
Et Dorothée, pourquoi l'euro ne profite pas de cette dédollarisation ? On pourrait se dire, c'est notre chance, notre moment. Et en fait, non.
C'est des mouvements qui sont très longs, hein, qui se font pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que l'euro, oui, le poids de l'euro dans les réserves de change, il augmente un petit peu. Le poids de l'euro aussi comme monnaie des transactions, comme monnaie dans laquelle le commerce international est facturé, il augmente un petit peu. Après, c'est des mouvements lents. Et l'euro n'a pas forcément toutes les caractéristiques d'une monnaie internationale. Pour être une monnaie internationale, il faut d'abord être un émetteur sûr et fiable. Je pense qu'on coche pas mal les cases là-dessus, peut-être plus que d'autres aujourd'hui. Il faut aussi émettre suffisamment de liquidités pour le monde. Le dollar, c'est un marché, hein, le marché des treasuries, qui est très profond, très liquide, et qui, comme en plus, ils ont beaucoup de dettes et de déficits extérieurs, ils exportent beaucoup de dollars pour le reste du monde. En Europe, on a 27 émetteurs. On a pas mal de frugaux, donc on en a les émetteurs les plus sûrs émettent assez peu, donc il n'y a pas de l'euro non plus disponible pour tout le monde. Et je suis pas sûre qu'on soit disposé à faire ce qu'il faut pour avoir un budget européen en commun, un actif en commun en émettant beaucoup de dettes en commun pour que ça puisse être l'actif de réserve du monde. Ça pose quand même beaucoup de sujets au niveau européen sur lesquels on n'est pas mûr. Et après, il faudrait réfléchir en termes d'avantages et d'inconvénients. Est-ce qu'on veut jouer ce rôle ? Donc un rééquilibrage à la marge avec un peu plus de rôle de l'euro.
Mais pas un remplacement de.
Et je pense que ça va se poursuivre.
Dollar par l'euro.
Est-ce que l'année prochaine l'euro aura remplacé le dollar ? La réponse est non.
Anne-Charlotte Frédéric, une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a balayé toute l'actualité de la semaine, on se dit qu'on est quand même plus tranquille à commenter qu'à gérer une boîte. Comment vous gérez l'incertitude, les décisions, votre stress personnel au milieu de toute cette incertitude ? Prendre une décision, c'est un enfer.
Oui, mais encore une fois, on est sur du temps long dans l'industrie. Heureusement, on rappelait que Airbus a 8 ans de commandes devant eux. Ils ont 8 ans de commandes devant eux. Donc, chez Ametra, si vous voulez, nous avons 18 mois à peu près de commandes devant nous. Donc, prendre des décisions dans ce contexte-là, c'est quand même plus facile que dans d'autres économies. Je pense au B2C, par exemple, où vous ne savez pas ce que les consommateurs vont vous acheter le lendemain. Nous sommes capables de dire, en septembre, nous allons lancer un recrutement d'une douzaine de collaborateurs parce que dans nos usines, on forme, par notre école interne, des câbleurs aéronautiques. Et donc, nous allons recruter 12 personnes que nous allons former pendant 3 mois et qui seront, à la fin de l'année, capables de commencer à fabriquer parce que le ramp-up, l'accélération des cadences, ça, c'est une donnée qui est certaine, qui est inscrite dans nos carnets de commandes. Donc, heureusement, malgré cette incertitude, chez Ametra, on a quand même une certaine visibilité qui nous permet de décider.
Et comment vous regardez les discussions aujourd'hui européennes ? Quand on voit à Vivatech, le président de la République est venu avec le discours « il faut acheter européen, choose Europe », on a eu ce discours dans l'aéronautique 5 mois auparavant, vous dites « il y a enfin une prise de conscience et on se met à regarder un peu ce qu'on fabrique en Europe ». J'avais à votre place, il n'y a pas très longtemps, le patron dans les SMR qui disait aujourd'hui, parfois dans les appels d'offres, on ne regarde même pas ce qu'on fait en Europe, alors qu'on a la même compétence. On achète américain, un point c'est tout. Parce que finalement, on se dit que c'est mieux, c'est le même sujet. Dans le cloud, est-ce que vous avez l'impression que là, il y a un changement d'état d'esprit ?
Alors c'est vrai que c'est très frustrant quand on voit certains pays européens, la Pologne par exemple, oui, commander des tanks coréens ou des systèmes d'armes américains. Est-ce qu'on voit vraiment une prise de conscience ? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que les allers-retours de Trump, les décisions à gauche, à droite, en haut, en bas, enfin les changements de décision en permanence de Trump, limite la confiance que l'Europe, que les pays européens peuvent avoir dans cet allié, peut-on encore l'appeler allié, américain. Donc oui, je sens une prise de conscience européenne. Est-ce qu'elle va se traduire dans des commandes auprès de pays européens ? Pour l'instant, on ne le voit pas encore, mais on sent ce frémissement, cette prise de conscience. Si l'administration Trump et ses changements peuvent servir à quelque chose, c'est au moins à cette prise de conscience que nous, Européens, devons prendre en main notre destin en matière de souveraineté et de défense.
Roland Gillet, est-ce qu'on a les mêmes conversations dans les autres pays ? Est-ce que les Belges ont les mêmes débats ?
Oui, bien sûr, mais surtout à Bruxelles, les Belges aussi, évidemment. Mais oui, je pense que tout le monde en a conscience, mais je répète, quand on est autour de la table, on vise encore nos différences comme étant non pas des possibilités de complémentarité, mais plutôt des moyens d'essayer de se favoriser par rapport au fonctionnement de Bruxelles et de toutes les institutions qui tournent autour. Et les lobbies à Bruxelles n'ont jamais cessé. Hein, je veux dire, à Bruxelles, à la Commission, c'est toujours comme ça. Et ce que vous me disiez tout à l'heure par rapport à aussi même le marché des capitaux, qui serait à un moment donné ce qu'on voudrait avoir, oui, un marché des
capitaux unique.
Il faut aussi rappeler toujours qu'il y a des éléments de poids qui sont à la base de la rationalité. Aujourd'hui, en moyenne, c'est un peu moins vrai peut-être, puisque les chiffres datent un tout petit peu, mais néanmoins, c'est l'ordre de grandeur. La rentabilité sur fonds propres aux États-Unis, donc sur le capital à risque, est de 17%. En moyenne en Europe, 11%. Pour différentes raisons. Hein. Ce n'est pas uniquement que le dynamisme des sociétés, c'est la manière dont elles sont imposées. Enfin, c'est beaucoup de choses. Même avec un marché des capitaux unis, à un moment donné, il faudra régler ce problème. On en a parlé tout à l'heure. Il faut qu'on voit ce qui est créateur de richesse. On a fait beaucoup dans la dépense sociale, oui, mais sociétale, qui ne sont pas des vrais investissements. Le déficit américain a beaucoup servi à des investissements, eux, carrément, qui permettent d'avoir un payback, au moins de récupérer l'argent qui est mis dedans et donc de recommencer. Nous, on a le même problème chaque année parce qu'on a des dépenses qu'on a accordé à des gens qui les méritaient peut-être à un moment donné, mais qu'on a pérennisé. Et aujourd'hui, on a difficile à dégager de l'argent pour des vrais investissements. Le rapport Draghi est éloquent à ce niveau-là également. Et après, on a des problèmes de financement, parce que, comme vous le voyez, même quand on joue européen, rendez-vous compte quand même à la taille de l'Europe, avoir 150 milliards de dotations européennes sur 800. C'est presque rien, puisque en plus, c'est en 4 ans. Donc, si on veut un jour acheter européen et avoir une logique européenne, il faut au moins se donner les moyens et que chaque pays joue le jeu européen. Vous l'avez rappelé tout à l'heure.
Merci à tous les trois de m'avoir accompagné aujourd'hui dans Les Experts. Lundi, vous retrouvez Nicolas Dose. Est-ce qu'il sera lui aussi au Bourget ? Je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, j'y serai à partir de 7h30 avec Jean-Marc Front de Boeing France. On sera aussi avec Eric Trappier d'Assaut Aviation, Fanny Turgis de Turgis et Garrière, Martin Sion d'Ariane Group, Joseph Aschenbacher, le directeur général de l'ESA, entre autres, parce qu'on aura beaucoup d'invités lundi et mardi depuis le Bourget, qui sera une grande fête, évidemment, on le sait. Vous nous l'avez redit, Anne-Charlotte Fredenucci. Je vous dis à lundi, bon week-end.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.